franceinter.fr.
Au fil de l'histoire, Patrick Liégibel, la fermeture des maisons closes de Philippe Touzet. Réalisation, Christine Bernard-Sugy.
Quand j'étais gamin, je partais toujours un peu plus tôt pour aller à l'école. Bon, c'est pas que j'étais un fanatique des tables de multiplication, mais pas loin de la communale, rue du Moulin des Prés, dans le 13e arrondissement de Paris, il y avait deux bordels. Le Grand Neuf, boulevard Auguste Blanqui, et un autre dont j'ai perdu le nom, rue Gérard. Alors avec les potes, le matin, on passait devant, l'air dégagé. À cette heure-là, c'était le grand ménage, les fenêtres étaient ouvertes. On pouvait voir des draps, des polochons, des couvertures. Parfois, coup de bol, la porte était ouverte. Et on apercevait un comptoir, des tables, des chaises. On était excités comme des puces et on courait direction la cour de récréation pour tout raconter aux copains. Parce qu'il y avait des potos qui avaient la schkoumoune, hein, du genre la maman qui se fait un devoir d'accompagner son fils à l'école. N'importe quoi.
Alphonse Boudard est né le 17 décembre 1925 à Paris, de père inconnu et de mère mineure et sans ressources.
Excusez-moi, désolé de vous interrompre. De père inconnu, là, il n'y a rien à dire. Jamais vu, jamais su. Ma mère était une fille aux mœurs légères, si on peut dire ça comme ça.
En 1941, après avoir obtenu son certificat d'études, il devient apprenti dans une imprimerie.
Si j'ai bien compris, je ne suis pas le menu du jour. Il faudrait peut-être accélérer la cadence au niveau de ma biographie.
Vous voulez prendre ma place?
Je vous ai vexé.
Mais pas du tout.
Je suis désolé. Je vous écoute.
En 1943, Alphonse Boudard rejoint un maquis situé dans le centre de la France. Un an plus tard, il participera activement au sein d'un groupe FFI à la libération de Paris. Par la suite, il intègre les commandos de France de la première armée du maréchal de Lattre. Durant la campagne d'Alsace, il est blessé au combat à Colmar.
Tiens, en parlant de ça, ma période guerrier sans peur et sans reproche. En 44-45, quand on remontait vers le pays de la race des seigneurs, Coulommiers, Montmédy, Nancy, les BMC, bordels militaires de campagne, où des pauvres filles en tutu et soquettes blanches supportaient les assauts répétés de la moitié du régiment, par jour, ça pouvait aller jusqu'à 60 à 80 bidasses par fille. Le service de santé contrôlait les entrées et les sorties, notait les matricules et te nettoyait popole avec du permanganate. C'était l'extase. Alors devant tant de beauté et d'innocence, je préférais me jouer concerto pour un homme seul.
À la fin de la guerre, vous retournez à Paris et c'est là que les ennuis commencent.
Après ce que j'avais vécu, je me voyais mal retourner dans mon imprimerie. Mes premières combines ont bien marché, tu crois que t'es le roi du monde, jusqu'au jour où tu te fais serrer par les flics.
Cette période s'étend sur une douzaine d'années.
Ouais, 12 ans de combines, de tôles et de stos, parce qu'en plus j'étais tubard. Mais je regrette rien, c'est ma vie. C'est au trou que j'ai découvert la lecture. Et par ricochet, l'écriture. Et c'est grâce à mes bouquins que j'ai rencontré le bel Armand. Quand j'ai rencontré le bel Armand, c'était en 65. Pendant la campagne présidentielle, de Gaulle-Mitterrand. Dans sa catégorie, c'était une légende. Une anthologie du Macron à lui tout seul.
Ah, bonjour Alphonse.
Entre, ça me fait plaisir.
Le bel Armand était un de ces hommes du voyage, ceux de la remonte aux Amériques. Après la guerre de 14, quelques julots avaient tenté leur chance en partant pour l'Amérique du Sud. Bien sûr, ils n'avaient pas quitté la mère patrie sans biscuits. Ils avaient des colis, puisque c'est comme ça qu'ils appelaient les filles. Des colis, ça voulait tout dire. Pas la peine de tortiller du cul, on était en plein dans la traite des blanches.
Tu veux un petit whisky?
À ton avis.
Hein? Allez.
Les gars de la remonte atterrissaient en Argentine. Certains d'entre eux allaient faire un tour au Venezuela, en Bolivie. Et la plupart des filles avaient déjà tourné dans pas mal de bordels de France et de Navarre. Et par contre, pour les autres, les pauvres, elles avaient cru les bobards des barbeaux, tournée internationale et tout le tintouin. Elles se voyaient déjà en haut de l'affiche et la descente sur terre, sur le trottoir, fut douloureuse. Le dressage, comme disaient ces messieurs, était plutôt sévère.
Ah, je serais de Gaulle.
je me méfierais de Mitterrand. J'aime bien De Gaulle, c'est De Gaulle, hein. Mais l'autre, pas un cave, hein.
Il était revenu blindé de thunes du pays des gauchos. Et avec une réputation de cador, même à 80 piges, il valait mieux peser ses mots quand tu causais avec lui.
Avant 46, les bordels étaient une vraie institution. Ça faisait partie du décor. Il y en avait pour toutes les bourses. Si on peut dire. D'abord, t'avais les maisons d'abattage, du style Le Panier Fleuri, boulevard de la Chapelle. Ça, c'était pour les immigrés, les clodos, hein. J'ai jamais mis mon nez là-dedans.
Ouais. Pour le coup, le bel Armand me l'a joué délicat. Dans le rôle de la Vierge effarouchée, il pouvait repasser.
Après, t'avais le bordel pour les bons pères de famille, les employés de bureau. Français moyen, comme on dit maintenant. Le gonce qui avait pas assez d'imagination pour tromper sa régulière. C'était aussi valable pour les célibataires, les puceaux.
Bon, là, nous entrons dans le registre social. Oh, je vous épargne le couplet sur les pervers sexuels qui trouvaient leur compte dans les boxons et qui maintenant sont lâchés dans la nature à la recherche de viande fraîche. J'y crois pas.
Et puis t'avais le haut de gamme. Le Chabanais, le Sphinx et surtout le One Tutu, qui était dirigé par un ami, Marcel Jamais. Sa maison fonctionnait comme un club anglais, les putes à l'étage. Tu pouvais venir lire ton journal, retrouver des amis, discuter affaires. Il y avait aussi un très bon resto. Les chambres, c'était des décors de cinéma. Tu pouvais choisir entre le grenier à foin, la hutte africaine, la cabine d'un paquebot, un igloo. Ah ouais, je te jure, un igloo d'Esquimau, hein, avec des couchettes en peau de renne. Et puis, il y avait mon préféré, le compartiment de train. Écoute ça. T'avais un système mécanique qui secouait le compartiment comme si t'étais dans un vrai train. T'avais même le paysage qui défilait à la fenêtre. Et cerise sur le gâteau, un type jouait le rôle du contrôleur qui était censé se pointer, toujours au bon moment.
Et je l'avais croisé ce type à Fresnes, en 48. Il m'en avait raconté des vertes et des pas mûres.
Et comme tous les goûts sont dans la nature, il y avait aussi des chambres un peu spéciales.
Bellarm n'en avait pas trop envie de s'étendre sur le sujet, moi non plus. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il y a des types qui sont sacrément tordus.
Le One Two Tour, c'est avec du beau linge, hein. Des aristos, des grands bourgeois, des artistes, des politiques et même des stars d'Hollywood. Faire d'un bordel le lieu incontournable de la vie parisienne, c'était franchement balèze. Mais du coup, ça lui est monté à la tête, à mon pote Marcel. On voyait sa trombine dans tous les canards. C'est pas bon, ça, pas bon du tout, hein. Des gars comme nous, ça doit rester dans l'ombre. Pendant l'occupation, il a déconné à plein tube. Il accueillait à bras ouverts les officiers de la Wehrmacht, mais aussi les affreux de la Gestapo, les trafiquants du marché noir et les pourris de la Carlingue, les Bonnie, Lafont et les autres. Ces voyous de bas étage qui sont devenus, grâce aux Boches, des auxiliaires de police.
Des vrais salopards.
Ah, ça tu peux le dire. Pendant que les Parisiens crevaient la dalle, au One Two Two, on bouffait le caviar à la louche. Du coup, à la Libération, quand on a commencé à causer de la fermeture des maisons, on s'est retrouvé avec tout le monde contre nous. Des culs bénis au coco. L'union sacrée contre les bordels.
Tu peux me parler de ça, de la fermeture ?
Si tu veux, Alphonse. Mais c'est toute une histoire. En ce temps-là, le taulier arrosait tout le monde. Les politiques avec du fric, les flics avec des renseignements, et même l'église avec des dons. Une sorte de denier du cul. Mais à la Libération, il y avait de la friture sur toutes les lignes, tout était brouillé. Des truands héros de la résistance se faisaient alpaguer par des flics qui avaient participé à la rafle du Veldiv. Comme dans toute période à la con, avant d'épuration, une moralisation s'élevait. Et je te demande un peu sur qui il est tombé le blizzard. Sur les bordels. Parce que franchement, en 46, le pays était à genoux, des villes entières étaient détruites, les Français avaient le ventre qui gargouillait, tickets de rationnement pour tout, de l'essence au beurre en passant par le pain, il y avait des dissensions politiques pas possibles, et de quoi on s'occupe ? De la fermeture des maisons closes.
Son nom m'échappe, là. Comment elle s'appelait, celle qui a pris la tête du mouvement ? Marthe Richard.
Ah, me parle pas de cette salope ! Quand elle était gamine, elle faisait le trottoir à Nancy.
Qu'est-ce que tu racontes ?
Mais la vérité est vraie. Ce qui l'intéressait dans cette histoire, c'est que son nom disparaisse du fichier de la prostitution.
Et puis le bel Armand avait changé de sujet. Il était reparti sur les élections. On avait aussi parlé de La Cerise, le bouquin que j'avais écrit en cabane. Quelque temps après, le doyen des Marlots a tiré sa révérence. On l'a mis au trou et il est propre d'en sortir.
C'est ainsi que l'idée d'écrire sur la fermeture des maisons closes vous est venue ?
Non, non, j'ai écrit le bouquin 20 ans plus tard. Enfin, je dis non, j'en sais rien. Les idées, c'est comme les bonnes bouteilles de vin, faut leur laisser le temps de se bonifier. Et puis, tout le monde raconte l'histoire de sa vie, il suffit d'écouter. J'ai rencontré Raymonde, dite Pomme d'amour, dans un petit resto qu'elle tenait avec sa fille. C'était dans le quartier des Halles, au début des années 70, avant la destruction des pavillons Baltar. Elle m'avait dit de me pointer après le service du soir. À minuit pétante, j'étais devant le rideau de fer.
C'est vous, monsieur Boudard ?
C'est moi.
Et le rideau s'ouvre, ou plutôt il monte, lentement, il fait durer le suspense. Une paire de talons aiguilles, des jolies jambes qui n'en finissent pas, une mini-jupe vraiment très mini, un t-shirt mouvant avec tout ce qu'il faut là où il faut, et au bout de tout ça, une jolie môme avec un beau sourire.
Entrez, je vous en prie.
Raymonde était assise à une table au beau milieu de la salle, et là je me suis traité de tous les noms, j'aurais dû prévoir le coup. Elle m'a serré la main un peu timidement, bien qu'elle ait dépassé allègrement les 50 piges, elle était belle comme un camion tout neuf.
Je vous ai préparé un bœuf bourguignon, j'espère que vous aimez ça.
C'est un de mes plats préférés.
Et le petit souci, c'est que je venais de me tortorer une blanquette de veau chez un ami qui habitait pas loin. Alors d'un geste de la main, elle m'invita à m'asseoir. Derrière moi, le rideau de fer allait taper la causette avec le trottoir. De là où j'étais, j'avais vu sur le menu du jour, du lapin à la moutarde. Elle avait cuisiné pour ma petite personne. J'étais coincé.
C'est un petit bourgueil qu'on fait venir directement de chez le producteur.
Pomme d'amour, c'était un surnom de jeunesse, à l'époque où la dame devait croquer la pomme plus souvent qu'à son tour. Nathalie, la fille, sera dînée avec une marmite. Oh, j'ai cru que j'allais tourner l'œil.
Voilà, d'abord, il y avait madame, la taulière. Derrière son comptoir, elle passait son temps à compter les billets, les serviettes, les savonnettes. Bah, c'est elle aussi qui recevait les clients. Bien sûr, Dieu sur terre, c'était monsieur. On le voyait pas souvent. Il apparaissait pas dans les papiers, mais je vous prie de croire que c'est lui qui récoltait la monnaie.
Monsieur Boudard, vous en voulez encore ?
Moi, je pouvais pas dire non. Autrement, je serais passé pour un malpoli de naissance.
Après, t'avais la soumac ?
Non, attends, ma chérie, va pas trop vite. Faut quand même dire deux, trois mots sur monsieur.
Tu en veux aussi ?
Non, merci. Alors lui, le taulier, il voyage, il rencontre les placiers, les gars qui font l'intermédiaire entre le mac et le tenancier. Parce qu'il faut savoir que les filles qui sont dans une maison close, la plupart du temps, elles n'appartiennent pas au taulier, mais à différents proxénètes. Parce qu'un macro de Saint-Malo, il peut avoir des filles à Montpellier, Strasbourg ou Clermont-Ferrand. Ça permet aussi de faire tourner les pensionnaires, hein, histoire qu'elles ne s'habituent pas trop au même endroit. Faut qu'elles ne s'amourachent pas d'un notaire de province. Et y rencontrer aussi les rabatteurs. Bon, je ne vous fais pas un dessin, hein, ce sont les gars qui vont dans les balles, qui traînent dans les gares.
Quand une fille entre dans le cycle infernal de la prostitution, elle a très peu de chances de s'en sortir. Exception à la règle. Pomme d'amour s'en était sortie. Comment ? Je ne sais pas. Elle ne me l'a jamais dit.
La soumac, c'était une ancienne gagneuse qui avait pris du grade. Elle distribuait les amendes si on arrivait en retard, si on cassait un verre, si on avait une tenue trop négligée. Elle chronométrait nos passes, fouillait nos chambres pour voir si on mettait pas un peu d'argent de côté. Oh là là, mon Dieu, quand je repense à tout ça.
Et elle s'éteignit comme une flamme de bougie soufflée par le vent. Nathalie posa sa main sur la main de sa mère. Elles se regardèrent avec tant d'amour que je me suis senti trop. Heureusement que j'avais mon assiette et mon verre pour me donner une contenance.
Mon quotidien dans une maison close, c'était le quotidien d'une vache à l'étable. Pour le prix de la chambre, le taulier récupérait 50% de la passe. Et derrière, le macro raflait la mise. Puis si t'osais dire quelque chose, t'avais droit à une valse à mille temps. Mais si t'avais pas compris, direction la maison d'abattage.
Et comment ça s'est passé pour vous à la fermeture ?
Ah, pour moi, la fermeture, c'est Marthe Richard. La Jeanne d'Arc des maisons closes. Ah, cette femme-là, c'est un sacré numéro.
Excusez-moi, monsieur Boudard.
Nathalie me casse la baraque. J'aurais bien aimé en savoir un petit peu plus sur la veuve qui clôt. Je sentais qu'on arrivait au bout de la discussion. Encore deux, trois phrases et on allait passer à autre chose. La pluie, le beau temps.
Vous prendrez bien du dessert ? Maman a fait un fondant au chocolat.
Marthe Richard a joué un rôle de premier plan dans la fermeture des maisons closes.
Elle a joué un rôle ? Vous ne croyez pas si bien dire.
Marthe Bettenfeld est née le 15 avril 1889 à Blamont, en Meurthe-et-Moselle. À l'âge de 16 ans, elle est arrêtée par la police des mœurs pour racolage près des casernes de Nancy. Entretenant des rapports conflictuels avec ses parents, elle fugue à nouveau et tombe sous la coupe d'un proxénète qui l'envoie sur les trottoirs et dans des bordels à soldats où elle finira par contracter la syphilis. Le 21 août 1905, elle est fichée par la police en tant que prostituée mineure. Elle s'enfuit à Paris, où elle entre dans une maison close, rue Godeau-Mauroy. C'est dans cet établissement qu'elle rencontre, en septembre 1907, Henri Richer, riche mandataire aux Halles. Ils se marieront le 13 avril 1915. Tirant un trait sur son passé, elle devient une respectable bourgeoise de la Belle Époque.
On ne peut pas nier que c'est une sacrée gonzesse qui assume sa barque. Après la mort de son mari, tué à Verdun, elle entre au 5e bureau, le service du contre-espionnage, sous les ordres du capitaine Ladoux. Alors, il faut dire qu'en ce temps-là, les espions français, c'était les pieds nickelés, dirigés par Bibi Fricotin. C'est vrai que de juin 1916 à septembre 1917, elle a participé à différentes missions, surtout en Espagne. Mais bon, ces renseignements n'ont pas changé le cours de la guerre, loin de là. Son patron, le capitaine Ladoux, l'a même suspecté de s'être fait retourner par les Allemands. Ce même capitaine qui a envoyé Matahari au peloton d'exécution, ce brave capitaine arrêté, accusé de trahison et remis en liberté au bénéfice du doute. À propos des activités d'espionne de Marthe Richer, je suis tombé sur un rapport de police qui dit texto « Les missions relatées par Madame Richer sont presque intégralement sorties de son imagination. » Voilà. Et tout est dans le presque.
En avril 1926, elle épouse Thomas Crompton, de nationalité anglaise, directeur de la fondation Rockefeller en France. Mariage de courte durée car son mari décède en 1928 d'une crise d'urémie. À l'abri du besoin, grâce aux dispositions testamentaires de son époux, Marthe Crompton mène grand train et passe ses soirées dans les boîtes à la mode. Durant cette période, les services secrets français la soupçonnent de travailler pour l'Intelligence Service.
Tant qu'on y est, pourquoi pas ? On prête qu'aux riches. Ce qui va catapulter Marthe Richard au sommet de la notoriété, c'est le bouquin du commandant Ladoux qui est sorti en 1932. Marthe Richard, espionne au service de la France. Un roman de gare à l'eau de rose, truffé d'invraisemblances, d'affabulations, mais qui devient un énorme best-seller. Alors, vous avez noté au passage que Marthe Richer, l'espionne de la Grande Guerre, se métamorphose en Marthe Richard. Et tout ça pour des considérations commerciales. Dans les années 30, les grandes villes utilisaient encore des pompes à merde, et je vous le donne en mille, le patron de ces pompes à merde s'appelait Richer. Fâcheuse coïncidence. Alors, cogitation intense dans les bureaux de la maison d'édition, alors Richer est devenu Richard. Et c'est comme ça que naissent les légendes. Carrément gonflé, notre espionne à la retraite va demander la moitié des droits d'auteur au commandant Ladoux, qui lui fait comprendre qu'elle peut s'asseoir dessus. Du coup, elle va écrire son bouquin « Ma vie d'espionne au service de la France », qui va pulvériser les records de vente et qui par la suite va devenir un film à succès. Marthe Richard au service de la France avec Edwige Feuillère dans le rôle titre. Le 17 janvier 1933, elle est décorée de la Légion d'honneur. Chapeau l'artiste.
Durant l'été 1944, elle rejoint les forces françaises de l'intérieur. Bien que mentionnée dans des documents officiels, ces hauts faits dans la résistance comportent un grand nombre d'éléments troublants et contradictoires.
Ah, tu m'étonnes. Ça me rappelle une discussion que j'ai eue avec un gars qui était flic à l'époque.
Lucas, non, ce n'est pas à toi. Non, Lucas. C'est pas ta pelle et c'est pas ton seau. Je sais, papy les a oubliés à la maison, mais ce n'est pas une raison pour les prendre à la petite fille. Voilà. C'est bien. C'est ça. Va faire du toboggan.
Qu'est-ce que je te disais, moi ? Ah, Marthe Richard. Pendant l'occupation, les Boches lui ont foutu une paire royale. Du coup, ça l'a mise en pétard. Elle est allée au siège de la police allemande en gueulant « Messieurs, je suis Marthe Richard, celle qui vous a fait tant de mal au cours de la dernière guerre !» J'imagine la tronche des types de la Gestapo. Alors, bien sûr, ils ont fait des recherches, mais ils n'ont rien trouvé. Forcément, ses activités d'espionne, c'est que du vent. Elle avait fini par croire ses bobards. Malgré tout, à la libération, elle a quand même réussi à se faire passer pour une grande résistante. Son seul fait d'arme avéré, c'est la prise du garage des autobus de la porte de Saint-Cloud. Autrement, tu peux creuser, tu trouveras rien.
Et forte de se passer encore une fois héroïque, elle va entrer en politique.
Ben pourquoi gêner ? Cette femme, c'est la Mona Lisa de l'Entourloup. En 1945, elle est élue conseillère dans le 4e arrondissement de Paris sur la liste de la résistance unifiée. Et après, ça va très vite. Le 13 décembre 1945, elle dépose un projet pour la fermeture des maisons closes. Sa proposition est votée. 3 mois après, la fermeture est effective dans le département de la Seine. Du coup, Marthe Richard se sent pousser des ailes. Elle mène une vraie campagne de presse pour généraliser la loi au niveau national. Et ça marche. La loi sera votée le 13 avril 1946 à la Chambre des députés. Et la fermeture des maisons closes sera appliquée à partir du 6 novembre de la même année.
Elle a bénéficié du climat ambiant. La plupart des tauliers étaient mouillés jusqu'aux oreilles dans la collaboration.
La vie des filles dans les bordels, c'était l'enfer sur Terre. Et je te parle pas des maisons d'abattage. Mais il n'y a pas de mots pour... Excuse-moi.
Lucas, qu'est-ce que je t'ai dit ? Ce n'est pas à toi, tu fais pleurer la petite fille. Si tu continues, je vais me fâcher.
À mon âge, être encore obligé de faire la police.
Vous les flics, vous avez dû sacrément tirer la tronche avec cette histoire.
Du côté de la morale, il n'y a rien à dire. Bon, mais que cette loi soit portée par une personne à la moralité plus que douteuse, c'est autre chose. On refait pas l'histoire. Par contre, du côté de la maison Poulaga, ça nous a mis dans la merde. Notre système est érodé depuis des siècles. En 1945, il y avait à peu près 180 bordels à Paris et dans les 1500 sur l'ensemble du territoire. Un réseau d'informations comme on n'en fait plus. Le taulier, on le tenait par les couilles. Et quand il fallait qu'il lâche un nom, il se faisait pas prier.
Après la fermeture, vous avez toléré pas mal de clandés.
Mais toujours pour la même raison. La pêche aux renseignements. Tu veux que je te dise, Alphonse ? Cette histoire de fermeture, ça n'a fait que déplacer le problème. Les filles, on les connaissait, elles étaient fichées. Et du jour au lendemain, elles ont disparu au coin des rues, au bois de Boulogne. Parce que les filles qui étaient dans les maisons, elles ne sont pas retournées à l'usine. Elles se sont retrouvées sur le bitume.
Et puis les tauliers ont fait leur compte.
Évidemment. Avant-guerre, ils lâchaient 52% de leurs bénéfices aux impôts. Et à la libération, on en était à 67,5%. Et en plus, les tenanciers passaient leur temps à arroser tout le monde, du parti politique à l'œuvre caritative, en passant par les flics.
On ne va pas pleurer sur le sort des tauliers.
Bon, c'est sûr, oui. Mais quasiment tous les michetons payaient les passants liquides. Il y a un paquet de pognon qui passait à l'as. Les maisons closes n'étaient pas fermées, que les macs s'étaient déjà recyclés. Ceux qui avaient des thunes ont acheté des hôtels. D'autres se sont mis en cheville avec des patrons et on est tombé dans le proxénétisme hôtelier. Pas plus compliqué que ça. Après, on n'arrête pas le progrès. On a eu droit à la prostitution par téléphone, les call girls, les réseaux internationaux d'escort girls comme celui de Madame Claude. Tu verras ce que je te dis. Dans quelques années, on aura à Paris des putes africaines, russes, sud-américaines, avec des julots qui tirent les ficelles depuis Moscou ou Bamako. Et là, Je la souhaite bonne à mes collègues du futur pour mettre la main sur ces salopards.
Lucas s'est mis à hurler comme un putois. La petite fille venait de lui balancer du sable dans la figure.
Au niveau international, trois tendances politiques s'opposent à propos de la prostitution. Tout d'abord, l'approche réglementariste qui considère la prostitution comme une activité professionnelle normale. Les prostituées sont perçues légalement comme des travailleurs du sexe. Pour les abolitionnistes, la prostitution est une forme d'exploitation et une atteinte à la dignité humaine. Les personnes prostituées sont des victimes et les proxénètes des criminels. Les clients peuvent être sanctionnés au titre de corrupteurs. Enfin, l'approche prohibitionniste considère les prostituées et les proxénètes comme des criminels. Les clients sont également sanctionnés. En France, depuis la fermeture des maisons closes en 1946 et au fil des lois qui se sont succédées, la tendance politique et législative s'oriente vers une approche abolitionniste de la prostitution. En 2013...
Excusez-moi, cher ami, je vous interromps une dernière fois. Vous avez dit 2013. Là, vous me parlez d'un temps que je ne peux pas connaître. Il est temps pour moi de vous quitter.
Au revoir, monsieur Boudard. Au revoir.
Au revoir.
Le 4 décembre 2013, à l'Assemblée nationale, une loi visant à pénaliser les clients de la prostitution est adoptée à la majorité absolue. Histoire, Patrick Légibel, la fermeture des maisons closes de Philippe Touzet, avec Yves Pignot, Alphonse Boudard, Alain Pralon, le bel Armand, Nathalie Cerda, Raymonde, Chloé Chevalier, Nathalie, René Morard, le policier, et la voix d'Andrea Brusque. Présentation Stéphanie Duncan, bruitage Bertrand Amiel, prise de son, montage et mixage Jean-Richard Dufour et Emmanuel Armingue. Assistante à la réalisation, Laure-Hélène Planchet. Réalisation, Christine Bernard-Sugy. Une émission que vous pouvez réécouter et podcaster sur franceinter.fr.